comme le temps passe. J'étais très ému par le chant du petit point. Temple de Méché, 1979. Ça rajeunit pas. Voilà, bon, ben, il y a quelques semaines, on avait inauguré une série Histoire inspirante ou Histoire édifiante, je me souviens plus exactement du titre. Le temps que ça se mette en place et puis que j'annonce à Christian que j'avais une idée, et ben voilà, ben on arrive à aujourd'hui. Dans l'intervalle, ben c'est la nouvelle série qui s'appelle Sagesse, mais ça fait rien, ça entre aussi. Voilà, alors tu me passes le cliché numéro 2. Voilà, l'histoire commence dans le goulet de Brest, après 2 jours de navigation dans la rade. Je vais essayer de raconter l'histoire sans trop de termes techniques pour que ce ne soit pas réservé à Yvonne, à Isolde, à Alain et à Marcus, hein, que les autres puissent comprendre aussi. Hein. J'avais déjà raconté cette histoire en 3 minutes pour des messages téléphoniques bibliques, c'était dans les années 80-90, par là autour. Mais j'ai pas fait de spéléologie pour aller rechercher dans mes archives. Hein. Donc, les textes d'accompagnement sont un petit peu tout neufs. Donc, il y avait eu la rupture de l'été du mât, juste à la sortie dans le goulet, ce qui nous a obligés à faire une escale un jour à Camaret pour réparer. Et ensuite, eh bien, il faut naviguer fort pour pouvoir récupérer le temps perdu. Hein. Une journée de navigation en moins, la date et l'heure du changement d'équipage et le lieu étaient inchangeables. Or donc, c'est une nouvelle étape qui est planifiée. Camaret, archipel des Glénans, sans escale en 24 heures. Alors, après avoir dépassé la presqu'île de Crozon, la route vise environ le cap Sizun. Quand on s'approche du cap, le skipper ordonne de lofer, c'est-à-dire de se rapprocher du vent, pour suivre la côte de près. Ah, j'étais pas très rassuré, il y a une houle d'environ 2 mètres. Les récifs découvrent à tribord à chaque creux. Les brisants s'écrasent contre les rochers à bâbord. Puis un peu plus loin, c'est des falaises qui montent à 30 mètres de haut. De temps en temps, il y a une petite crique. Voilà, ben c'est probablement là, entre les deux rochers qu'on a passé. Et il se trouve que c'est mon tour de barre. Le skipper est assis sur le banc à tribord. Changement de cliché. Maintenant, tu vises la Maison Blanche, là, sur la falaise. Bon, ben, le voilier répond aux sollicitations sur la barre à roues. Mes camarades effectuent de temps en temps un réglage des écoutes pour que la marche du bateau soit bien assurée. Maintenant, changement de cliché, tu vises le rocher foncé et pointu juste là-devant, légèrement sur tribord. Vu de la mer, à ce moment-là, avec le soleil déclinant, le rocher paraît bien plus foncé que sur la photo. Je donne un mouvement de barre et je m'aligne sur le nouveau repère. Ce qui nécessite, de la part des coéquipiers, des réglages de voile. C'est ensuite un phare qui constitue le repère suivant et exige une nouvelle correction de cap. Cliché suivant. Voilà, peu avant de franchir le ratzin, mon quart s'achève et je confie la barre à un autre membre d'équipage avec un certain soulagement. Je reprends sa place aux écoutes du Génois. Et puis, on continue à avancer, la nuit tombe. Pendant la nuit, ben, le quart se fait par équipe de 2. Il y en a un qui est à la barre, et puis l'autre aux écoutes, puis après on s'échange. On vérifie les éclats des phares, et puis le cap sur devant nous, là, juste devant la barre, voir qu'on tient la bonne direction. Au large, à tribord, c'est le défilé des cargos et des pétroliers sur le rail d'Ouessant. Heureusement, on n'est pas trop près. Pendant ce temps, tous les autres, capitaine inclus, y dorment. Au moment où il y a la relève de l'équipage, parfois le capitaine, il faut le réveiller, parfois pas. en l'occurrence, pendant que ma coéquipière barrait, je suis allé réveiller les deux nouveaux équipiers de car, mais pas le skipper. Et j'ai transmis les consignes. Je me permets une petite digression. Dans la navigation, chacun a une fonction et doit la faire avec soin. Chacun dépend des autres réciproquement. À l'époque, j'étais un marin très débutant et ça m'a marqué. Un voilier de près de 12 mètres, pesant 2 ou 3 tonnes, et 7 autres personnes dépendent de mon maniement de la barre. À vrai dire, j'étais un peu angoissé. Je ne connaissais pas le coin, je ne connais toujours pas d'ailleurs, et je n'avais pas bien retenu les leçons de navigation qui ont été données pendant la journée où on était cloué au quai. J'avais retenu des choses, mais pas tout, parce qu'il y en avait tellement. Et pourtant, c'était à moi de suivre ces directives. Eh bien, je trouve que c'est une belle image de la marche du croyant. Dieu connaît tout, et il nous communique ce qui est vraiment nécessaire. C'est vrai qu'on n'a pas tous les détails. Ce fameux jour, le skipper, il ne m'a pas dit combien il y avait de mètres ou de centimètres entre le bulbe de la quille et puis le fond de la mer. C'est des détails, je n'avais pas forcément besoin de les savoir, ça passait. Voilà, dans la vie chrétienne, c'est un petit peu comme pour l'équipier du voilier. La communication dans les deux sens, avec celui qui sait, est vitale. Voilà, bon, on aurait pu s'arrêter là. Et puis, je crois que tout le monde a compris. Ah bon, on va quand même un peu ouvrir la Bible. Voilà, cliché suivant, s'il te plaît. Voilà, donc, on va ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, pour lire des paroles de Jésus. Alors, je vais sauter quelques versets par moment. Et vous savez où moi je vais. Et vous en savez le chemin. Alors il y a Thomas qui lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Et personne ne vient au Père, si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Ces quatre versets suggèrent que nous ne recevons pas d'avance le mode d'emploi pour la navigation de toute la durée de notre vie. Mais nous avançons dans la nécessité d'une dépendance permanente. Cliché numéro 7. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas et ne le voit pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il reste auprès de vous et qu'il sera en vous. Et oui, cette communion avec celui qui sait nous est réservée à nous qui avons reconnu notre état et accepté le salut par Jésus-Christ. Nous voyons ici Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit unis pour être près de nous. Cliché 8. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas la mienne mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses alors que je suis avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Voilà donc cette nécessité d'être en communion permanente avec l'Esprit Saint, eh bien vraiment, nous vient directement des paroles de Jésus. Et ça rejoint un peu le message de Frédéric du 19 janvier, où on nous parlait de la sagesse. Alors, cliché numéro 9. C'est au Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Or, il y a des moments où Jésus considère que nous avons reçu des indications suffisantes et que nous pouvons aller de l'avant. Mais même la nuit, le skipper, ou Jésus plutôt, peut être dérangé en tout temps. Il est toujours prêt à nous révéler sa sagesse. On m'a raconté une autre histoire qui était dans le même coin que l'histoire précédente. Alors, c'est une navigation de nuit et les instructions ne sont pas respectées. Au moment du changement de quart, personne n'a voulu réveiller le skipper. Alors l'équipe commence à s'inquiéter. Il y a quelque chose de bizarre. Un, ou plutôt une, c'était Claire Lise, une de mes coéquipières sur Phébus, qui va réveiller le capitaine plus tard que le moment du changement de quart. C'est normal qu'on entende si fort les oiseaux ? D'un bond, Daniel, le skipper, sort de sa couchette, il sort à la barre, il voit le cap, et vloup, il donne un grand coup de barre, virement à 180 degrés. Et il veille ensuite, il demande de régler les voiles pour ça, pile poil, exactement sur la même trace que le tracé précédent. D'ailleurs, comme vous avez vu sur les photos, on voit encore ici, c'est un coin qui est fort mal entretenu. Il y a des cailloux partout. Eh bien, il y avait eu une erreur de cap qu'il a tout de suite détectée en regardant le compas. Et puis, ben là, la seule solution, comme en pleine nuit, on n'y voit rien, c'était de prendre exactement le cap inverse de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, parce qu'on savait que, comme ça avait passé une fois, il n'y avait pas de cailloux. Au moment où Claire-Lise est descendue réveiller Daniel, il restait peut-être 5 minutes ou 20 secondes avant le naufrage. Revenons à notre vie chrétienne. On a bien reçu des instructions que nous devons respecter, et c'est notre responsabilité de les respecter. Cliché 10. Au psaume 19, là c'était dans le guide aussi le 3 novembre, là quand je commençais à préparer le message pour aujourd'hui. La parole de Dieu est un point de repère éternel et une vérité sur laquelle on peut s'appuyer. On lit au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est vrai, rendant le sage simple. Les ordonnances de l'Éternel sont droits, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont la vérité. Ils sont justes tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or et beaucoup plus que l'or fin et plus doux que le miel qui coule des rayons. Aussi, ton serviteur est instruit par eux et il y a un grand profit à les garder. On mesure que les instructions sont bien présentes, mais qu'un non-respect, même pour ne pas déranger le Seigneur, ou le skipper en l'occurrence, peut conduire à la catastrophe. Si on reçoit les instructions, c'est notre responsabilité de les mettre en œuvre. Et cela rejoint une expression qui est attribuée à la Marine nationale dans mes références littéraires. Entendre, c'est obéir. Sur Internet, on trouve aussi que ce slogan est référé aux jésuites. J'ouvre une parenthèse. Eh bien, j'avoue que dans ma vie chrétienne, il m'arrive d'avoir la même attitude que cette équipe de quart. Il m'arrive de manquer aux consignes. Eh oui. Eh bien, ça a des fois des conséquences. Eh bien, dans ce manquement aux consignes, je pense que on y est tous plus ou moins soumis une fois ou l'autre. Mais on a aussi tendance à accuser les autres de manquement de consignes. Alors quand on accuse l'autre On pointe du doigt pour montrer « Ah, t'as pas respecté les consignes ?» Il y a trois doigts qui pointent vers nous pour nous dire « Bah, toi non plus !» Fin de la parenthèse. Cliché numéro 11. Mais ces instructions que nous recevons au fur et à mesure, elles n'ont pas forcément une grande réserve temporelle, comme le déclare le psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Or, une lampe aux pieds, ça éclaire pas bien loin. En gros, surtout avec les lampes qu'il y avait à l'époque, ça devait éclairer juste pour qu'on puisse poser le pied suivant, mais pas plus loin. Donc, on ne peut pas faire des provisions de sagesse sur le long terme et ensuite marcher tout seul parce qu'on est des grands conseils. Cliché numéro 12. Dieu nous invite à faire appel à lui de manière régulière. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 33. Appelle-moi et je te répondrai, et je te déclarerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Ce verset justifiait l'expression qu'on utilisait vers 1980 dans les groupes de jeunes ou dans les camps d'évangélisation. On va téléphoner à papa. Ça voulait dire, on va prendre du temps pour prier. Voilà, donc, ça ne rajeunit pas. Hein. Donc, pour en revenir à l'histoire que je vous racontais au début, j'étais à cette époque un jeune ingénieur, et à ce moment-là, je faisais une analogie entre la vie chrétienne et la vie professionnelle. En acquérant l'expérience, je serai plus apte à bien suivre les préceptes de Dieu inscrits dans la Bible. Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était qu'une légende urbaine à laquelle j'avais adhéré à l'époque. Maintenant, en ayant progressé dans la marche avec Dieu, j'ai appris la nécessité de la dépendance étroite de Dieu et que l'expérience est certes utile, mais largement insuffisante pour marcher tout seul. Et puis, même pour la vie professionnelle, je me rends compte que, à quelques mois de la retraite, j'en prends encore des tas de choses. Ma conclusion pour le marin professionnel comme pour le marin inexpérimenté, la dépendance du divin capitaine restant indispensable. Cliché numéro 13. Il faut aussi se synchroniser avec le plan de route. N'être ni en avance ni en retard sur le plan du Seigneur. Et ici, sur ce cliché, on voit que si on avait voulu passer par là au moment où la photo a été prise, ben, ça n'aurait pas passé. Ben, on voit ici l'intensité du courant, même avec un vent appuyé à la voile, ben, ça ne passe pas. Donc là, être juste au bon moment, quand on a passé, c'était juste le bon moment au niveau de la marée, donc on a pu passer sans problème. Bon, au moment du passage ici, ce n'était pas moi qui étais à la barre, mais j'étais aux écoutes. Voilà, cliché numéro 14. Je vous souhaite bonne navigation à chacun. Amen.